Et pour moi, c'est un défi dans le sens que l'Évangile de Jean a beaucoup à dire. Et je pense qu'à travers l'enseignement de l'Évangile de Jean, on va tous être bénis. Maintenant, ce matin, ça va peut-être être un petit peu plus ardu. La raison, c'est qu'un matin, on met la table. Je ne sais pas, les dames sont peut-être plus habituées à cela, là, mais quand on met la table, ben, on place les couteaux, les fourchettes, les assiettes, les verres, ces choses-là. Mais il n'y a pas de viande, il n'y a pas de... Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de senteur. On dresse la table. Et là, mais par contre, si on ne fait pas ça, sur quoi qu'on mangerait nos plats? Donc, ce matin, je veux parler un peu de cette introduction-là à l'Évangile de Jean, de façon à ce qu'on puisse se situer au niveau du contexte, se situer aussi au niveau des dates. Qui en est vraiment l'auteur? La réponse est facile, mais il y a eu beaucoup d'arguments. Et qu'est-ce que Jean veut nous dire dans son évangile? Alors, merci Seigneur pour l'évangile de Jean, qui est différente de celle des trois autres apôtres, mais des trois autres écrivains, c'est-à-dire des évangiles, mais qui raconte encore plus, avec une certaine intimité, le rapport que Jean avait avec Jésus et les choses, les miracles de Jésus qui sont décrits par une personne qui était près de lui. Alors que dans nos cœurs ce matin, même si c'est plutôt de la connaissance qu'on va chercher, qu'on puisse bien comprendre d'où vient cet évangile. Et c'est dans le précieux nom de Jésus, je te prie. Amen. Excusez-moi. Je vais vous dire le commentaire d'un théologien qui est très réputé. Son nom, c'est A.T. Robertson. Okay? C'est un grand théologien. Et il a dit que l'Évangile de Jean, c'est le livre le plus profond du monde. Le livre le plus profond du monde. Donc, ça veut dire qu'il y a de quoi à apprendre, à aller chercher dans l'Évangile de Jean. Et le premier point que je vais parler, c'est la place unique de l'Évangile de Jean dans le canon. Qu'est-ce que c'est le canon? C'est pas quelque chose qu'on tire avec, là. Mais le canon biblique désigne l'ensemble des textes qui sont considérés comme étant les textes sacrés. Ce qu'on a aujourd'hui dans la Bible, ayant conduit sur plusieurs siècles, évidemment, on part de l'Ancien Testament, et ces livres-là sont devenus la Bible. On a les Juifs, premièrement, qui ont choisi les bons textes pour l'Ancien Testament, et on a, évidemment, certains théologiens, les pères de l'Église, qui ont choisi les vrais textes, les bons textes pour le Nouveau Testament. Donc, les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont des livres qui ont passé à travers certains critères pour être approuvés comme étant des livres, les livres sacrés. On sait que dans les Bibles catholiques, on a des livres qu'on appelle, nous, les livres apocryphes. OK? Et vous regarderez dans une Bible Jérusalem, il y a plus de livres que dans la Bible. Donc, ça veut dire que l'Église catholique a choisi ces livres-là comme étant des livres sacrés. Mais les théologiens qui ont contribué au canon, eux, ils ont dit que ces livres-là ne faisaient pas partie. Étant manquant certains éléments, par rapport aux autres textes. Jean affirme clairement que ce livre-là est destiné à l'évangélisation. Et au chapitre 20, verset 31, on peut lire « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, afin que nous croyions, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. » Alors, c'est un beau texte pour l'évangélisation. Des millions de petits évangiles de gens en format de poche ont été distribués depuis plus d'un siècle à travers le monde entier. On s'en sert lors de campagnes d'évangélisation pour donner aux gens. Parce que c'est l'évangile qu'on veut que les gens lisent. Mais l'évangile de Jean constitue aussi l'un des livres bibliques préférés. Sinon, le grand favori des chrétiens qui sont mûrs et consacrés. Jean ne rapporte pas simplement les événements de la vie du Seigneur, mais aussi ses longs discours. On n'a qu'à penser à Jean 17, la prière de Jésus. Et l'évangile de Jean aussi rapporte aussi les pensées profondes d'un apôtre, Jean, qui a cheminé avec Jésus depuis la fin de son adolescence en Galilée jusqu'à un âge très avancé dans la province d'Asie. Cet évangile-là contient le verset le plus connu. Lequel? Jean 3,16. Et Martin Luther a dit ceci, il appelait ce verset « l'Évangile en raccourci ». C'est vrai que Jean 3,16 dit tout. Même si l'Évangile de Jean serait le seul livre du Nouveau Testament, il offrirait non seulement du lait spirituel, mais aussi assez de nourriture solide, de la viande, à absorber et à digérer pour une vie entière. Je l'ai vu. Maintenant, on va parler de son auteur. OK? Il y a eu des contestations par rapport à qui a écrit l'Évangile de Jean. L'identité de l'auteur du quatrième évangile a été largement contestée depuis environ 150 années. On pourrait rajouter un peu plus de... On conteste l'Évangile. Pourquoi? Parce que cet Évangile-là rend témoignage, un témoignage qui est clair à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, plus que jamais, je le dis souvent, mais la divinité de Jésus est attaquée. On dit que Jésus n'est pas le Dieu. Mais Jean, lui, renforce cela. On a essayé de prouver que cet évangile-là était l'œuvre non pas d'un témoin qui aurait vu, là, mais d'un génie religieux anonyme. On va loin des fois. Et ce génie religieux-là aurait vécu entre 50 et 100 ans plus tard que l'apôtre Jean. Donc, vers 150 à 200 après Jésus-Christ. On a aussi supposé que ce livre est le reflet de la pensée de l'Église sur Christ et non de ce que Christ fut, ce que Christ a dit et ce que Christ a réalisé de façon efficace. Fais l'entrée, monsieur. J'ai de la misère à voir, hein? J'ai cassé mes lunettes ce matin. C'est Neil, hein? Bonjour, Neil. Content de te voir. Donc, on a essayé de faire dire plusieurs affaires. L'Évangile lui-même demeure silencieux concernant son auteur. Jamais dans l'Évangile de Jean, Jean va se nommer. Mais il y a de nombreuses indications qui nous permettent de croire que l'un des 12, à savoir l'apôtre Jean, en est l'auteur. Là, je vais vous nommer des noms. C'est des pères de l'Église, OK? Clément d'Alexandrie rapporte qu'à la fin de la longue vie de Jean, des amis très proches qui sont venus d'Éphèse ont demandé à Jean d'écrire un évangile qui compléterait les évangiles synoptiques. Un gros mot pour dire que les évangiles synoptiques, c'est l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. On les appelle de même. Donc, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, Jean a composé aussi cet évangile qu'on qualifie de spirituel. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres évangiles ne sont pas spirituels ou qu'ils manquent de spiritualité. Mais l'accent dans l'évangile de Jean est mis sur les paroles mêmes du Seigneur Jésus et sur le sens profond des signes miraculeux de Jésus. Et c'est pour ça qu'on qualifie cet évangile-là de spirituel. Maintenant, quand on étudie la Bible, ces gens-là, ils ont cherché à aller chercher, c'est-à-dire des preuves externes et internes. Des preuves externes, c'est des preuves qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qui, de l'extérieur, me prouve que c'est bien Jean l'auteur? Donc, en 170 après Jésus-Christ, Théophile d'Antioche fut le premier écrivain connu à présenter Jean comme étant l'auteur de l'Évangile de Jean. Toutefois, il y en a d'autres, il y a d'autres allusions, c'est-à-dire il y a d'autres citations plus anciennes encore concernant le quatrième Évangile qui se trouve dans les écrits de Ignace, Justin Martyr, Tatien et dans le canon de Muratorien. Ça ne vous dit pas grand-chose peut-être, mais en tout cas. Ensuite, Irénée complète une chaîne de témoins, une chaîne qui n'est pas interrompue, une chaîne qui est structurée depuis le Seigneur Jésus jusqu'à Jean, et ensuite de Jean à Polycarpe, qui était un contemporain de Jean, et même de Polycarpe lui-même, qui a cité comme Jean étant l'auteur de l'Évangile. Maintenant, cette chaîne-là s'étend de l'aube du christianisme, c'est-à-dire le début du christianisme, jusqu'à la fin du deuxième siècle, c'est-à-dire les années 198-199 après Jésus-Christ. Irénée, un père de l'Église, attribue souvent cet évangile-là à l'apôtre Jean et le cite comme largement reçu dans l'Église, c'est-à-dire les églises qui existaient dans ces années-là, recevaient ces textes-là comme étant l'Évangile de Jean. Et à partir d'Irénée, cet Évangile est abondamment attesté, y compris par les témoignages significatifs de Clément d'Alexandrie et de Tertullien. Maintenant, c'est des beaux noms que je vous encourage à aller voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Qui étaient ces gens-là au début de l'Église? C'est intéressant pour notre culture personnelle. Ensuite, la fin du chapitre 21 a été probablement rédigée par les anciens de l'Église d'Éphèse. Donc, on dit que le chapitre 21 n'a pas été composé par Jean. Et ce texte-là a été composé à la fin du 1er siècle, c'est-à-dire par les années 98-99. Et encourageant ce texte-là, le chapitre 21 encourageait ainsi les fidèles à accepter l'Évangile venant de Jean. Et l'expression « le disciple que Jésus suivait » aimait, c'est-à-dire, figure déjà au chapitre 13, verset 23, il a toujours été considéré comme se rapportant à l'apôtre Jean. Le disciple que Jésus aimait. 13, 23. Autrefois, les théologiens qu'on appelle libéraux, le mot dit, sont un petit peu plus libres dans leur interprétation des évangiles, enseignaient couramment que le quatrième évangile avait été rédigé vers la fin du deuxième siècle, vers les années 190 et plus. Ça, c'est une erreur. parce que Jean n'a pas vécu proche des années 200. En 1920, on a découvert en Égypte un fragment du chapitre 18. C'est le papyrus 52. Joanne, t'es rendu? OK. Papyrus. Ça, c'est les pages d'église, ça. Papyrus 52. Remontant selon des méthodes objectives de datation à la première moitié du deuxième siècle, c'est-à-dire entre 100 et 150. Et probablement environ à 125 après Jésus-Christ. Un fragment semblable de Jean 5, c'est le papyrus Égerton 2, remontant également au début du deuxième siècle, confirme encore une fois l'existence de cet évangile du vivant de Jean. Ça, c'est des fragments, ça ne vous dit rien, mais quand même, c'est intéressant de savoir qu'on a découvert des textes là, qui ont été écrits moins de 100 ans, 200 ans après que le Seigneur Jésus est passé sur la terre. Ça, c'est pour les preuves externes. Maintenant, les preuves internes. C'est-à-dire des preuves qu'on peut aller chercher dans l'Évangile de Jean, des preuves internes. À la fin du 19e siècle, ça fait pas si longtemps que ça, hein, les années 1800, l'archevêque Westcott, c'est un érudit célèbre anglican, identifia Jean comme l'auteur de l'Évangile au moyen d'un raisonnement qui procède par ce qu'on appelle des paliers concentriques. Bon, je vais vous faire un petit résumé. Ce que je vous encouragerais de faire sur le papier notes, si vous en avez besoin, je pense qu'il y en a encore de reste, Louise, écrire les versets bibliques. Parce que s'il avait fallu que je les écrive tous, là, on serait ici demain matin encore. Je ne pense pas que vous voulez ça. Donc, l'auteur, cet archevêque-là anglican, dit que l'auteur était un juif. Son style, son vocabulaire, sa connaissance évidente de la culture et des coutumes juives et de l'arrière-plan, sa connaissance de l'arrière-plan de l'Ancien Testament est démontrée lorsqu'on lit Jean. Deuxièmement, l'auteur vivait en Palestine. On a une série de versets, là, Jean 1, 28, Jean 2, 1, Jean 2, 11, Jean 4, 46, Jean 11, 18. En tout cas, vous les avez là, prenez le temps de les regarder, écrivez-en quelques-uns. Donc, ces textes-là nous disent que Jean vivait en Palestine. Ensuite de ça, il connaissait fort bien la ville de Jérusalem et son temple. Et là, on a encore une série de versets qui nous disent que Jean était un juif qui vivait à Jérusalem. Troisièmement, si jamais vous n'avez pas assez vite, là, vous viendrez me voir par courriel, je peux vous envoyer les textes. Troisièmement, l'auteur était un témoin oculaire, c'est-à-dire qu'il a vu oculaire des événements parce qu'il rapporte de nombreux détails sur les personnes, sur les endroits concernés, comme aussi sur l'heure et la manière dont les événements se sont déroulés. C'est étonnant de voir comment Jean est précis. Il y a encore là une série de versets. Quatrièmement, l'auteur était un apôtre et témoigne d'une connaissance exacte du cercle le plus intime des disciples et du Seigneur lui-même. Jean, il était toujours collé sur le Seigneur. On dit même à un endroit que il était à côté sur la poitrine de Jésus. Ensuite, cinquièmement, puisque l'auteur cite avec précision le nom des autres apôtres, mais jamais le sien, curieux, hein? On peut supposer que celui qui n'est pas nommé dans, et là vous avez des versets que là, ben c'est l'apôtre Jean. Trois autres passages importants confirment que l'auteur a été un témoin oculaire. Il a vu, quand on va dans 1 Jean, hein, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Donc, Jean a été un témoin oculaire. Troisièmement, on va regarder la date de quand est-ce que cet évangile-là a été écrit. Donc, Irénée, excusez-moi, affirme de façon précise que Jean a écrit son évangile à Éphèse. Donc, si c'est le cas, la première date possible serait entre 69 et 70 après Jésus-Christ, quand l'apôtre est arrivé dans cette ville. Possible. Mais, étant donné que Jean ne mentionne pas un événement important, c'est quoi qu'il ne mentionne pas, Jean? La destruction du temple. En 70 après Jésus-Christ, il est possible que la destruction n'est pas encore arrivée, ce qui pourrait donner une date antérieure avant cet événement terrible. Et on sait que suite à ça, les Juifs ont été dispersés à travers le monde entier. Par contre, en raison des liens possibles entre cet évangile et les manuscrits de la mer morte, ça c'est des, encore là, c'est des textes sacrés qu'on a trouvés dans des grottes, hein, puis qui nous rapportent, on regarde ces textes-là, on les traduit avec les versions les plus modernes, puis il n'y a presque rien qui a changé. Donc, l'évangile qu'on a aujourd'hui, la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est le texte de la parole de Dieu. Donc, certains érudits plutôt larges, libéraux, ont préféré une date entre 45 et 66. Je trouve ça un peu de bonheur. Cependant, dans ce cas-là, les traditions de l'Église primitive plaident pour la date plus tardive, plus tard. Les traditions, hein, de l'Église qui commençait là, nous permettent de dire ou plaident en la faveur d'une date plus tardive. Maintenant, les arguments en faveur de la fin du premier siècle, que Jean a été écrit plus tard, vers les années 90, sont très probants. OK? La plupart des érudits s'accordent avec Irénée, Clément d'Alexandrie et Jérôme pour affirmer que Jean est le dernier des quatre évangiles à avoir été écrit, en partie parce qu'il semble à la fois présupposer l'existence des évangiles synoptiques, je vous ai dit tout à l'heure, Matthieu, Marc, Luc, et ce que Jean fait, c'est qu'il les complète. Si vous avez, je vous amènerai ça un bon dimanche, c'est un livre dans lequel est les quatre évangiles. Vous avez les trois évangiles et l'évangile de Jean séparés. Et on lit ça, là, un à côté de l'autre. Et là, on fait des liens entre les événements. Un dit ça trop vite, plus tard, l'autre il dit un petit peu avant. C'est intéressant de voir comment même si ces gens-là ne se sont pas vus, comment les textes corroborent l'un avec l'autre. D'ailleurs, il y a un bon cours de Sembeck là-dessus qui est intéressant. Donc, l'absence de la destruction de Jérusalem, c'est-à-dire Jean n'en parle pas. Probablement que si Jean a écrit son évangile dans les années 90 et en montant, il avait comme oublié un peu cet événement-là qui était arrivé. Irénée écrit que Jean a vécu jusqu'au règne de l'empereur Trajan. Et lui, il est devenu empereur en 98 après Jésus-Christ. Les références aux Juifs dans cet évangile-là suggèrent également une période qui est plus tardive, où l'opposition juive à la foi chrétienne s'était transformée en persécution. Et on sait que lorsqu'on lit l'histoire des Juifs, ces temps-là, là, vers les années 90, les empereurs romains qui ont vécu là, qui ont été les empereurs, on voit comment les chrétiens ont été persécutés. Donc, en résumé, alors qu'il est, je dirais, impossible de donner une date qui est précise, la décennie comprise entre 85 et 95 après Jésus-Christ est probablement le temps où Jean a écrit l'évangile, son évangile. Quatrièmement, on va regarder ensemble, c'est un petit peu plus intéressant ça, les arrière-plans ou l'arrière-plan de l'évangile et les thèmes. Jean a construit son évangile autour de 7 miracles accomplis en public et appelés des signes. D'ailleurs, je vous encourage, pendant le temps qu'on va, on va prêcher, puis je pense qu'on en a peut-être pour un an et plus. John MacArthur, je pense qu'il a prêché 3, 4, 5 ans de l'Évangile de Jean. Ça veut dire qu'il y a du stock. J'encourage à lire l'Évangile de Jean et pour se garder dans le contexte. Donc, ces signes-là, chacun d'eux, sont destinés pour montrer que Jésus est Dieu. Premièrement, la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana en Galilée. Vous allez voir ça dans Jean 2, verset 9. Qui est capable de faire ça? Parlez-moi pas de magicien, là, c'est toujours arrangé. Dieu. La guérison d'un fils de l'officier du roi, Jean 4, versets 46 à 54. La guérison du paralytique à la piscine de Bethsaida. J'ai-tu sauté quelque chose? 5, chapitre 5, versets 2 à 9. La multiplication des pains pour les 5000 hommes. Chapitre 6, versets 1 à 14. Ensuite, la marche de Jésus sur la mer, quand Jésus a marché sur les eaux en Galilée, dans le but de porter secours à ses disciples. Jean 6, versets 16 à 21. Un des plus grands miracles aussi, c'est la guérison de l'aveugle né. Personne étant né aveugle aurait pu avoir la vue. Il y a seulement Dieu qui pouvait faire ça. Et enfin, la résurrection de Lazare, qui est au chapitre 11, et l'histoire est racontée des versets 1 à 44. En plus de ces 7 miracles-là accomplis en public, il y en a un 8e qui a été accompli par Jésus après, par contre, sa résurrection, en faveur uniquement de ses disciples. Et c'est la pêche miraculeuse, chapitre 21, chapitre 1 à 14. Charles Herdman, c'est un autre commentateur, affirme que le 4e évangile a incité plus de personnes à suivre Jésus. Cet évangile-là a inspiré plus de chrétiens à servir Jésus-Christ et aussi à poser aux érudits, ceux qui cherchent là, les interprétations, les dates. Cet évangile-là a posé aux érudits plus de problèmes difficiles que tout autre livre du monde. L'évangile de Jean permet d'établir la chronologie du ministère terrestre du Seigneur Jésus. D'après les évangiles synoptiques, c'est qui encore ces évangiles-là?
C'est Matthieu.
OK, bon, correct. Le ministère de Jésus-Christ pourrait sembler avoir duré seulement un an. Pourquoi? Parce que il manque de quoi. Mais En revanche, les allusions concernant les fêtes annuelles dans l'Évangile de Jean indiquent que le ministère public de Jésus a duré, comme on sait, 3 ans environ. Bon, regardez bien ça, là. On va considérer ces références-là. La première fête de la Pâque est mentionnée au chapitre 2, versets 12 et 13. Ensuite de ça, au chapitre 5, verset 1, il y a une fête, peut-être la fête de Pâques ou peut-être la fête des Purins. La deuxième ou troisième fête de Pâques, encore une fois, chapitre 6, verset 4. Ensuite de ça, au chapitre 7, verset 2, on a la fête des tabernacles. Chapitre 10, verset 22, la fête de la dédicace. Et la dernière fête de Pâques, qui serait, évidemment, au chapitre 12, verset 1. Donc, Jean montre aussi, d'une façon très précise, ses allusions au jour ou à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors que les autres auteurs des autres évangiles se contentent souvent de références qui sont approximatives, Jean mentionne avec soin, exemple, c'était la 7e heure, chapitre 4, verset 52. C'était le 3e jour, chapitre 2, verset 1. Chapitre 11, verset 6, il dit, il y a 2 jours, et chapitre 12, verset 1, 6 jours. Vous lirez ces passages-là. Et au cours du temps qu'on va passer à travers au complet l'Évangile de Jean, ben on va y revenir. Ensuite, le style et le vocabulaire de cet Évangile-là ne se trouvent nulle part ailleurs. Et si ce n'est que dans les épîtres de Jean. On regarde les épîtres, on regarde l'Évangile. C'est le même gars qui écrit ça. Les phrases sont courtes, les phrases sont simples. La langue, c'est le grec, mais la pensée est juive. Souvent, plus la phrase est courte, plus la vérité s'avère profonde. Le vocabulaire apparaît à la fois comme le plus limité des 4 évangiles, mais aussi celui qui a le sens le plus profond. On remarque la fréquence des mots simples comme « père » qui revient 118 fois, « croire » qui revient 100 fois, « monde » qui revient 78 fois, « amour » qui revient 45 fois, « témoignage » ou « témoigner » 47 fois, « vie » 37 fois, « lumière » 24 fois. Et l'une des caractéristiques essentielles de cet évangile-là, c'est la répétition du nombre 7. Le nombre 7 et ses multiples. Dans l'Écriture, l'idée de perfection et d'achèvement s'attache à ce nombre. Si vous voulez tourner, je pense que je lis Genèse 2, versets 1, 2 et 3. On va regarder ça, ça va me permettre de voir. Donc, Genèse 2. Premier livre dans notre Bible. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa toutefois son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Donc, dans cet évangile-là, l'Esprit de Dieu achève parfaitement la révélation de Dieu en la personne de Jésus-Christ, parce qu'on sait que c'est la parole qui a créé. Et ça explique aussi la fréquence du nombre 7, parce que Jésus, c'est la perfection. Et je vais vous montrer encore les 7 « Je suis ». Dans Jean, sont connus. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le cep. Moins connues sont les sept affirmations « Je suis » qui sont dites simplement seul. Il a juste dit Jésus « Je suis ». Au chapitre 6, qui traite du pain de vie, le mot grec traduit par pain, ou pain au singulier ou pain au pluriel, apparaît 21 fois, ce qui est un 21, c'est un multiple du chiffre 7. Et de même, dans le discours de Jésus sur le pain de vie, l'expression « le pain du ciel » apparaît exactement 7 fois. Et l'expression similaire « descendue du ciel » apparaît elle aussi 7 fois. Je termine avec ceci. La table est mise. Il y en a qui vont dire, oh, tant mieux, je finis, là. C'était pas ce que j'aurais aimé entendre, mais quand même, il faut. Ceux qui ont des Bibles avec des commentaires, vous avez toujours ça comme introduction. Puis il y a des Bibles aussi qui sont. Il y a des livres, c'est-à-dire, qui sont spécialisés pour ça. Où ce que c'est qu'on a exactement des renseignements. De l'instruction sur cela. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir, puis je vais vous en suggérer quelques-uns. Donc, la table est mise, et comme on va le voir dans cette série de messages, le but de Jean en écrivant son évangile était que ses lecteurs puissent croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Merci Seigneur pour ces renseignements. Du moins, ces renseignements-là nous ramènent encore plus à la vérité de ce qu'est la Bible. Plusieurs érudits ont travaillé fort à chercher soit des preuves externes, des preuves internes. Nous, Seigneur, on a tout ça devant nous. Et comme je l'ai dit tantôt, bénis cette série de messages. Ce n'est pas moi, Seigneur, qui les a produits, mais c'est des hommes qui... ont travaillé, justement, parce qu'ils étaient qualifiés dans le sens. Puis aussi, c'est toi qui as écrit ces paroles-là par les mains de personnes à qui tu as soufflé ta parole. Alors, bénis ton Église, bénis le reste de ce temps qu'on va passer ensemble. Bénis aussi notre frère Mathieu qui va amener des nouvelles réjouissances à propos de notre missionnaire Jean, et qu'on puisse ensemble, comme une église, comme frères et sœurs, tisser, serrer, marcher dans la vérité et accomplir ta volonté dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.